Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
France Info 20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
Compagnie ce soir d'Adrien Brachet, de Marianne Alexandra Saviana, de L'Express, Véronique Ressoul, de Backbone Consulting. Et l'on reparle donc de GPA, avec une semaine marquée par la naissance des jumeaux du créateur de mode Jacquemus. Beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux immédiatement, de Victoria Beckham à Carla Bruni, des anonymes aussi. Et au Parlement européen, on va y venir, une fake news dans la foulée. Lundi donc, Simon Porte-Jacquemus, le créateur, annonce sur Instagram la naissance de Mia et Soon, je pense qu'on dit comme ça, née d'une mère porteuse. Bienvenue sur Terre, mes amours. Nous vous aimons beaucoup, notre rêve est devenu réalité. C'est ce qu'il écrit sous une photo de main de nouveau-né. Félicitations, donc, je vous le disais. Mais sur X, Marion Maréchal, la tête de liste Reconquête pour les Européennes, arrive avec cette question: où est la maman ? Là, le buzz est assez violent, on va dire. Mardi, au Parlement européen, arrive cette directive qui devait être révisée concernant la traite des êtres humains. Et là, c'est François-Xavier Bellamy, tête de liste LR aux européennes, qui pousse pour faire voter ce texte et pour faire savoir que la directive va intégrer la GPA. Or, contrairement à ce qu'il dit, lui, Jordan Bardella, la GPA n'a pas été reconnue comme traite des êtres humains ni interdite en Europe. Et ce matin, sur France Info, c'est ce que soulignait l'ancien ministre Clément Beaune.
Il y a une fake news complète qui circule. Le texte européen que vous citez, il n'a pas du tout dit que la GPA, c'est de la traite des êtres humains. J'ai même entendu certains de vos collègues journalistes le dire tel quel. C'est un mensonge complet. Le Parlement européen, il a dit, dans un texte sur la traite des êtres humains, qu'il y avait différents cas, y compris l'exploitation de la GPA quand on force une mère à porter un enfant. Quand des réseaux forceraient, ça peut exister, des mères à porter des enfants ou à commettre différents actes de traite. C'est pas du tout la GPA en tant que telle qui a été déclarée par le Parlement européen comme un acte de traite des êtres humains. C'est quand même très important de le rappeler, parce que certains se sont engouffrés dans cette brèche pour des raisons idéologiques.
Alors, parmi ceux qui ont voté le texte, l'eurodéputé RN Gilles Le Breton, qui lui aussi a tweeté ce matin sur le fait qu'il avait voté l'interdiction de la GPA dans l'UE, et à qui j'ai fait remarquer sur France Info ce soir que ce n'était pas exact.
Nous avons fait un pas dans cette direction, ça c'est vrai.
Oui, mais vous n'avez pas interdit la GPA dans toute l'UE.
Oui, mais attendez, moi je ne fais pas des discours d'une heure pour tromper les gens. Je fais un tweet, et vous savez bien que dans un tweet, le nombre de mots étant limité, il faut être efficace.
C'est
et
pas possible.
La direction que nous avons prise, c'est bien celle-là.
C'est pas possible juste d'écrire, nous avons fait condamner la GPA dans les cas où la femme, la mère porteuse, n'est pas consentante. C'est complètement différent.
Bah, écoutez, c'est pas complètement différent, non. Moi, je pense que pour qu'un message politique soit efficace dans le cadre d'un tweet, en tout cas, il doit être percutant.
Véronique Ressoul, qu'est-ce que ça vous inspire, y compris sur la perception d'un tweet par un élu de ce niveau ?
Alors, d'abord, c'est intéressant de penser que, parce que c'est un tweet, on a une pensée réduite, parce que finalement, quand on dit la vérité et les choses simplement, on a une pensée encore plus courte.
Ça doit vous faire plaisir, ça.
Voilà. Ensuite, il faut voir que ce phénomène, il est vraiment intéressant. Vous avez refait toute la chronologie de l'histoire depuis lundi. En soi, déjà, il faut se dire que ce post sur Instagram, tout seul, même avant que Madame Maréchal s'exprime, c'était quand même des chiffres assez importants, parce que vous avez plus de 6 millions d'abonnés. Vous avez eu plus de 14 000 messages à la suite de ce message. Vous avez plus de 800 000 likes. Enfin bref, ça a été très très suivi, très très soutenu. Et ça a déclenché énormément de réactions. Quand Marion Maréchal réagit, ça produit aussi énormément de réactions. Mais comme un peu moins en soi, voire même beaucoup moins, hormis que son expression étant extrêmement réduite, là pour le coup, extrêmement claire, extrêmement interpellante avec « Où est la maman ?», qui n'est pas le sujet fondamentalement sur lequel les uns et les autres s'exprimaient sur la GPA. En fait, ça relance un débat bien plus large et ça réveille énormément d'idées reçues et de fantasmes qu'il peut y avoir autour de ce sujet. Donc, quand le débat arrive de ce vote au Parlement européen, on est à plus de 200 000 messages juste sur la suite de cette polémique. Les Français commencent à s'intéresser au sujet et des nouvelles fake news arrivent. En plus de celles-là, on commence à entendre qu'il y aurait des assurances 2 ans. Quand vous faites une GPA, pendant 2 ans, vous pourrez y rapporter le bébé s'il vous plaît pas ou si vous avez un problème.
Comme quelque chose quoi, qui serait intégré dans la directive.
Voilà, en fait, les uns et les autres se sont mis à sortir énormément de choses, puisque c'est toujours pareil. Quand vous commencez à déformer, c'est pas forcément en soi totalement une fake news, mais une déformation de la réalité de ce que vous avez fait, eh bien ça ouvre le champ à beaucoup de choses. Et on pouvait voir sur les réseaux des débats, je vous dis, jusqu'à... Donc, en fait, ce sont tellement des objets, les enfants, qu'on pourrait les rendre. Voilà. Bien évidemment, ça n'est pas le cas. Et donc, on voit que c'est intéressant parce que ça a fini par cliver à un point excessif avec des gens qui pour défendre leur point de vue, finissaient par inventer des choses improbables, mais tellement choquantes que ça interpelle les gens en face. Mmh. Et comme il y a un petit fond de vrai... Eh bien, ça prend, ça s'enflamme, et les débats étaient extrêmement animés, extrêmement clairs, et c'était intéressant parce qu'il y a pas mal de politiques qui ont été interpellés parce qu'il n'y a pas eu un mot de leur part, et ça interpelle les électeurs. Monsieur Glucksmann n'a pas parlé, par exemple, dessus, Madame Aubry, Madame Ayé, et les internautes les interpellent en disant, et vous, qu'en pensez-vous? Clarifiez, il faut un débat plus apaisé autour de ce sujet. Donc on voit bien que c'est un sujet extrêmement fort, extrêmement clivant, et qui a permis à Madame Maréchal, en tout cas, d'émerger de façon très très claire cette semaine, et ce qui fait d'ailleurs qu'elle n'a pas fait un tweet, voyant que ça prenait bien. Depuis le début de la semaine, on en est au 8e message en 3 jours.
Mais alors, François-Xavier Bellamy aussi a énormément communiqué sur ce sujet. C'est quand même difficile à concevoir qu'il ait pu tenter d'exagérer comme ça la portée de cette directive.
Alors disons qu'il faut remettre tout ça dans le contexte.
C'est un sujet fort pour lui, ça.
Voilà.
C'est sûr.
Alors, il faut se remettre dans le contexte des élections européennes où les Républicains, comme Reconquête, ont du mal à percer, ont du mal à se faire entendre, et donc, par exemple, fidèle un peu à la stratégie d'Éric Zemmour pendant la présidentielle, Marion Maréchal pratique un peu l'outrance par ce genre de tweet, dire au lieu de dire on va avoir un débat apaisé sur cette question-là, etc. Elle le fait d'une façon absolument outrancière. Et donc, elle bénéficie de ça. Ça lui donne une caisse d'écho médiatique. Et derrière, François-Xavier Bellamy embraye. C'est vrai que il est connu pour des positionnements assez conservateurs sur ces questions sociétales. Et d'ailleurs, au sein de son camp, beaucoup lui ont recommandé de moins parler, de moins appuyer sur ces thèmes-là, comme il avait pu le faire en 2019, étant donné que ce sont quand même des sujets qui divisent les Français et y compris l'électorat de droite. Donc on lui a pourtant recommandé de ne pas trop appuyer sur ce sujet, mais ça reste en effet un moyen de se faire entendre dans une campagne européenne où il est très difficile, au vu de la complexité des enjeux, de franchir le mur du son, si vous voulez.
Vous dites que ça n'est pas forcément payant. Lui a dû considérer ça, que dans l'électorat LR, c'est un sujet qui est attendu, oui, ce genre de position, non?
Oui, alors peut-être.
Alexandra.
Oui, alors je pense qu'il y a peu de Français qui font leur choix finalement à la fin là-dessus, quoi.
Alexandra Saviana.
En fait, ce qui est très frappant dans cette histoire, c'est que la question de la GPA divise tous les camps politiques, quels qu'ils soient. Côté PS, par exemple, Raphaël Glucksmann et Boris Vallaud se sont déclarés pour une GPA éthique. Boris Vallaud, en disant il y a quelques mois qu'il savait que ça divisait son camp, et d'ailleurs, pas plus tard qu'en mars, il y a eu une tribune de la maire du 18e adjointe qui a dit qu'elle était contre la GPA et que la GPA éthique n'existait pas. C'est le cas aussi au RN. Vous aviez la position de l'eurodéputé que vous avez interviewé. Et en septembre, Julien Odoul, au micro de France Culture, disait qu'il ne savait pas qu'il y avait des débats au sein même du RN et qu'il fallait pour cela organiser un référendum pour que les Français puissent exprimer leur opinion. Donc on voit bien qu'en fait, ce n'est même plus une histoire de camp, c'est vraiment Non, même la croyance plus transversale. En fait.
Parce que même chez Renaissance, le président avait quand même toujours dit, le président de la République Emmanuel Macron a toujours dit qu'il était contre, a priori, la GPA pour des raisons éthiques absolument, et de dignité. Ouais. Et vous avez Monsieur Beaune, Monsieur Dussopt et Madame Thévenot qui sont montés au créneau. Donc on voit bien qu'effectivement, c'est pas tant un sujet de droite-gauche qu'un sujet compliqué au sein de chacun des camps.
20h, 21h, France Info, les informés. Bérangère Bonte.
Adrien Brachet là pour Marianne, Alexandra Saviana pour l'Express, Véronique Reissoult pour Backbone Consulting. Alors parmi les nombreuses voix ou les voix un peu, les personnalités un peu visibles qui portent ce sujet GPA, il y a également Christophe Beaugrand qui était au cœur sans doute de la semaine, on va dire, sur les réseaux et notamment l'animateur journaliste, présentateur de Secret Story qui est allé sur France 5. Au cœur de cette polémique, justement, défendre son cas à lui, cet enfant qu'il a qu'il revendique, évidemment. On l'écoute.
Il n'est absolument pas illégal d'avoir recours à la GPA dans un pays où c'est encadré. Et plus que ça, sachez qu'il y a une circulaire de Christiane Taubira en 2013 qui facilite l'obtention des papiers pour les parents français qui ont eu recours à la GPA à l'étranger. Moi, mon enfant, il est inscrit sur le livret de famille, il a un acte de naissance français, donc j'interdis à quiconque, clairement, de dire que j'ai contourné la loi française, que je suis un délinquant, que mon enfant a été acheté à l'étranger, parce que c'est ça qu'il y a derrière. Oui, vous n'imaginez pas la souffrance que ça représente pour des milliers, des dizaines de milliers de familles en France.
Véronique Reissoult, c'est là pour le coup, ça a été
un. Là pour le coup, c'est un torrent et c'est violent. Il est devenu un symbole.
Mais comme toujours sur ce sujet ou là particulièrement.
Mais disons que ce sujet, il est particulièrement clivant et on voit les excès. Mais lui a fait l'objet d'attaques particulièrement fortes et qui fait d'ailleurs qu'il répond aussi par moments de façon un peu excessive. Il a fait quelque chose qui était intéressant comme démarche, qui est il a repris les insultes qu'on lui envoie et les publie pour que les gens se rendent compte de ce qu'il subit. Est-ce que ça a apaisé ? Pas forcément, ça a encore plus exacerbé le sujet, mais c'est une réalité, c'est que les messages qui lui sont envoyés sont d'une rare violence. Quoi.
Adrien Brachet ?
Oui, ce que je voulais dire, c'est que je voulais revenir sur ce qu'a dit Alexandra, ce qui est très intéressant, sur les divisions au sein des camps, et c'est vrai qu'au lieu de rentrer dans les outrances vis-à-vis des uns et des autres, on pourrait avoir un débat apaisé, notamment à gauche, parce que ce qui est très intéressant à gauche, c'est que cette question de la GPA touche à deux fondamentaux de la gauche, si vous voulez, à deux contradictions qu'il y a au sein de la gauche française, c'est-à-dire une partie de la gauche française qui va s'élever contre toute marchandisation, donc dans ce cas la marchandisation des corps, on paye pour faire une GPA, et de l'autre côté, une gauche plus tournée vers la question des droits individuels. Et si vous voulez, ce sont deux tendances au sein de la gauche qui ont tendance à s'entrechoquer, et donc on pourrait, pour avoir un débat vraiment intéressant, placer le débat d'un point de vue philosophique sur ce qu'on veut, en fait.
C'est aussi comme ça que surgit dans le débat, vous l'avez juste évoqué, Alexandra, la GPA éthique qui concerne, alors on va dire, ce qui se pratique aux États-Unis, au Canada, versus des pays où, et notamment le cas de la maman, d'où la directive européenne d'ailleurs, où le consentement de la maman est loin d'être une évidence, en fait. Mais GPA éthique.
Oui, et en fait, le terme de GPA éthique qui est difficile à définir. En fait, ce qui est intéressant dans le vote à Strasbourg qu'il y a eu sur l'interdiction donc de l'exploitation des femmes participant à la GPA, pour ne pas faire de fake
donc,
news.
Donc en gros, des GPA lorsque la femme n'est pas consentante.
Voilà. C'est que certains militants LGBT y ont vu une manière de décrire en creux ce que serait une GPA éthique. Or, aujourd'hui en France, pour le moment, on ne sait pas, on n'a aucun contour et on ne sait pas non plus qui serait pour. La proposition n'a pas été clairement formulée, portée par le pouvoir, par l'exécutif notamment. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui permet à une certaine partie de la gauche d'être sur ses deux pieds. Parce que en disant oui, on est pour la progression des droits familiaux, des droits individuels, et en même temps, nous sommes contre la marchandisation du corps humain. Donc, ça permet d'éviter d'avoir cette tension-là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça ne se traduit par rien de concret dans les textes de loi et dans les propositions.
La légalisation en France, elle va se poser tôt ou tard. Il y a tellement de parents qui, alors qu'ils soient vont au bout du monde. Il y a une espèce d'injustice. Alors
c'est vrai qu'il y a ces cas-là, et en même temps, les politiques sont encore très prudents sur cette question-là, parce que, comme on l'a dit, c'est une question qui est source à la fois de beaucoup de clivages et de débats très tendus, et puis aussi parce qu'il y a des désaccords profonds au sein des familles politiques. Donc c'est dur pour l'instant, pour un candidat à la présidentielle, par exemple, de porter cette question-là et d'avoir l'unanimité de ses soutiens derrière.
Allez, on referme, on ne peut pas refermer ces informés, Véronique Ressoult, puisqu'on vous êtes notre œil sur les réseaux sociaux. Je voulais qu'on dise un mot de la flamme, parce que ça prend une ampleur assez conséquente, l'arrivée de cette flamme qui est en train de quitter la Grèce.
Qui quitte la Grèce, qui est une cérémonie d'ailleurs en Grèce qui a été saluée pour sa beauté solennelle et qui a été appréciée. On a aussi envie de belles histoires, parce qu'on voit bien qu'en ce moment, l'actualité n'est pas toujours très rose. Donc,
C'est suivi, la flamme, ou pas encore?
C'est plutôt suivi. Alors, pour vous donner une idée de volume, GPA, c'était 200 000 messages cette semaine. Là, on était à 11 000 messages. Donc, c'est plus calme. Mais ça démarre. Par contre, il y a quelques belles histoires qui démarrent très fortement. Pour vous donner une idée, il y a une très belle histoire qui, elle, a été beaucoup partagée. C'est Ludovic Francese, qui est un éboueur parisien, qui va être porteur de la flamme. C'est un éboueur qui est très populaire sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait, sur TikTok, il raconte tout le temps sa vie d'éboueur et les côtés sympathiques de son métier, qui est un amoureux de Paris et qui raconte combien la ville est belle. Et bien là, ça a été salué et ça fait partie des jolies histoires. Et donc là, ça a largement dépassé ce volume. Et surtout, voilà, les gens ont retenu que ça peut être très joli, cette histoire, et que peut-être, ça va bien se passer, et peut-être, ça va être une jolie histoire.
Vous pouvez lire cette histoire, ce livre, parce qu'il avait écrit cette histoire avec une journaliste radio qui s'appelle Isabelle Millet.
Exactement.
Et qui avait permis de faire émerger cette
histoire. Et là, il a un compte sur TikTok, il doit avoir 350 000 abonnés, et qui est très suivi, et raconte des très jolies histoires.
Alors, les unes, l'Express, on a vu, c'est la dette.
Dette, la France plombée.
Et pour Marianne, Adrien Brachet.
C'est l'avenir radieux des pétroliers. On a notamment une enquête sur les activités de Total.
Et l'ultime pouvoir, la face cachée des réseaux sociaux, c'est le livre de Véronique Ressoult aux éditions du Cerf. Demain, les informés, c'est à 20h avec Victor Maté. Et la semaine prochaine, c'est Agathe Lambret qui vous accompagnera à partir de 20h. Très bonne soirée.